Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
Robert Musil entre l'Autriche et l'avenir.
Dans cet état depuis lors disparu et resté incompris, il y avait les glaciers et la mer, le karst et les champs de blé bohème, les nuits au bord de l'Adriatique grésillantes de l'activité des grillons, et les villages slovaques où la fumée sortait des cheminées comme d'un nid retroussé, où les maisons étaient tapies entre deux collines comme si la terre avait entrouvert ses lèvres afin d'y réchauffer son enfant.
Si nous connaissons quelque chose de l'œuvre immense et sans fin de Robert Musil, 1880-1942, c'est son portrait de l'Autriche-Hongrie à son crépuscule. Il l'appelait la Cacanie. C'était un immense empire jeté comme un tapis multicolore au milieu de l'Europe et qui couvrait tant bien que mal des villes et des plains, des plaies et des bosses. Il contenait une population égale à celle qu'atteint aujourd'hui la France. La France, 100 ans après l'enterrement de François-Joseph et le coup de grâce du traité de Versailles, n'est d'ailleurs pas sans ressembler à l'Autriche-Hongrie. Musil disait que l'enseignement y était dispensé de façon différente, selon qu'on était d'une origine ou d'une autre, que l'administration y était tatillonne et en même temps ignorée, qu'il y était bienvenu de prôner le dynamisme, mais pas trop. Bref, le pays avait derrière lui le meilleur de son passé. On devine que Musil, c'est bien davantage que le témoin d'un temps révolu. Son grand œuvre, « L'homme sans qualité ». Ce livre a commencé à être publié à l'aube du nazisme et est resté inachevé au moment de sa mort en exil en Suisse en 1942. Musil ne pouvait l'abandonner. Dans les circonstances qu'il traversait, ne lui restait que la force de son désir d'écrire. Ce livre, entrepris par un écrivain qui se situe en fait entre les époques, reste ouvert à tous ceux qui, sans qualité particulière, se posent les questions morales fondamentales qui sont appelées à rester des questions.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Frédéric Joly, bonjour.
Bonjour.
Une grande biographie de Musil il y a quelques mois aux éditions du Seuil. C'est plus un essai biographique, c'est une bio sans leçon. Vous êtes un grand traducteur de l'allemand devant l'éternel.
Benjamin Zimmel, entre autres.
C'est pour ça que vous habitez à côté de la Bibliothèque nationale de France. On voit le genre d'homme que vous êtes. On verra que Robert Musil, lui, était sans domicile durable, sans emploi durable et toujours à chercher un peu d'argent. Alors, c'est peut-être ça qui va donner envie de le lire, parce que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître en lui. Mais vous auriez intérêt tous à reconnaître cette séquence d'un film qui est réputé, l'acteur principal tente de mettre entre les mains de son partenaire un livre qu'il doit absolument lire.
Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous ne bougez pas. Hein. Je suis tombé là-dessus ce matin. Vous allez voir, il y a une phrase très juste. Voilà, c'est là. Profondes sont nos souffrances, pensa-t-il. Je crois qu'il n'arrive pas souvent que deux êtres s'aiment d'un amour.
Ah non, hein, non, arrête avec tes bouquins, hein. Bon, pas le moment, hein, je te jure. Pas envie de lire, là.
J'ai jamais envie de lire.
Ouais, ben, là encore moins.
Bacri ne veut pas lire le livre. En fait, c'est lui qui a suggéré la séquence au cinéaste Clapiche dans Un air de famille. C'est un grand amateur de Musil. Une phrase pour donner envie de lire Musil, Frédéric Joly? C'est difficile d'entrer.
C'est difficile, oui. L'histoire était peut-être une phrase tirée de l'homme sans qualité, que vous évoquiez d'ailleurs dans votre présentation, quand l'écrivain qui se souvient de sa ville natale, il dit que l'histoire y était enseignée en deux versions contradictoires selon que l'auditoire était tchèque ou allemand. Cela afin de ne froisser personne. Ô sagesse du plus doux des états.
C'est pour ça que je disais que ça ressemblait à la France, la Cacanie. Alors qu'est-ce que c'est la Cacanie où il naît en 1880 à Brune?
L'empire austro-hongrois qu'il va appeler la Cacanie d'abord parce qu'il a beaucoup d'humour et ensuite afin de souligner la double nature de l'empire des Habsbourg, qui est un empire à la fois royal et impérial.
Il faut que vous le disiez en allemand, là, oui.
Königlich und Kaiserlich, K und K.
Ah oui, K, Kani, avec deux K.
Du K, Kani. Comme vous l'avez dit également tout à l'heure, c'est un empire qui administrait plus de 50 millions de sujets, de l'Adriatique jusqu'à la Russie. Paul Claudel a pu parler d'un délicat chef-d'œuvre. Et effectivement, c'était une culture boursouflée et risible à mains égards.
Il dit une table d'hôte aussi.
Il parle de, tout à fait, il parle d'une table d'hôte. Mais c'était aussi un empire qui était doté d'une administration très très organisée, le plus souvent incorruptible, souligne Claudel et Musil d'ailleurs, tous les deux. Et qui, bon an, mal an, était parvenu des décennies durant à faire coexister des populations partageant, somme toute, très peu entre elles.
Cette immense bureaucratie était dirigée par un empereur lui-même bureaucrate qui, au palais de l'Augsbourg, était là au petit matin, et tout se faisait en son nom. Voilà, extrait du colonel Redol, d'Ivan Zabo, une cérémonie de confirmation. L'évêque donne la confirmation de jeunes enfants catholiques, et il semble que ce soit au nom de l'empereur et pas de Dieu.
Maintenant, l'empereur François-Joseph Ier est votre parrain. Et par la Sainte Église, vous êtes ses fils. Vous pouvez l'appeler à présent notre père François-Joseph. Avec une humble fierté, par le sacrement de la confirmation, vous êtes considéré comme ses fils. Cela vous liera les uns avec les autres, ça vous liera à l'armée, et ça vous liera à l'empereur de façon parfaitement indissoluble. Puisse votre gratitude filiale, votre loyauté filiale, préservez ce lien avec le Seigneur Dieu, avec votre empereur et avec la mère patrie pour l'éternité.
Mais dites-moi, ça ce sont les apparences, parce que rien qu'à regarder sa famille, il se dit, notre ami Robert Musil, c'est curieux, c'est une famille bourgeoise, mais il y a un homme en trop.
Oui, Madame Musil, mère, chose assez inhabituelle pour l'époque tout de même, impose la présence au domicile conjugal de son amant, ou disons de son ami. Et le jeune Robert Musil aura très tôt des difficultés à cohabiter avec ce trio improbable, ce qui incitera ses parents à le scolariser dans un pensionnat militaire.
Alors justement, on entendait l'armée évoquée dans le texte dit par l'évêque au moment de la confirmation. Alors, Musil dit c'est une armée à laquelle on consacre beaucoup d'argent, de telle sorte que il faut pas trop de dynamisme. Elle est l'avant-dernière puissance militaire du continent, et lui va en connaître les apparences et les vices cachés dans un lycée, puis dans une académie militaire. Il a failli, avant de devenir ingénieur, être militaire de carrière. Et il raconte ça dans son premier livre, qui a été son seul grand succès, qui a été publié en 1906, qui est connu, notamment grâce au cinéma, Les désarrois de l'élève Torlès.
Tout à fait. Effectivement, une fois encore, il va faire l'expérience d'une sorte de fossé profond entre les apparences et la réalité, puisque derrière le décorum, l'apparat, il assistera à des pratiques douteuses.
Bah oui, il faut dire qu'il y a deux ou trois jeunes petits seigneurs, camarades de Turles, qui ont fait de Basini un autre élève, objet sexuel, un esclave.
Les désarrois de l'élève Turles mettent en scène un triste quatuor, l'élève Turles, deux petits seigneurs qui sont des petits chefs mauvais, pervers, et un objet sexuel esclavagisé, humilié. Telle est l'intrigue de ce premier roman.
Ça se passe dans les combles, les choses inavouables.
Absolument.
Pendant que dans la cour, il y a la parade officielle. Ça veut dire qu'il y a un envers de la monarchie austro-hongroise.
Il y a un envers, et beaucoup verront dans les désarrois de l'élève Turles un écrit prophétique sur l'évolution de l'Europe centrale, de ce qu'on appelle la mytho-Europa.
Convoqué en conseil de discipline, l'élève Turles essaye de s'expliquer pourquoi a-t-il rejoint les petits seigneurs qui font souffrir Basini, et voilà l'explication, qui est plutôt une question qu'il trouve.
Un rien peut tous nous changer. Au fond, ce sont nos agissements qui nous marquent. Le bien et le mal sont en chacun de nous, et nous pouvons être tour à tour bourreaux ou victimes. D'un instant à l'autre, ça peut changer. Et quand on sait cela, on sait que le pire est possible. Malheureusement, il n'y a pas de mur pour séparer le mal du bien. Et automatiquement, les deux se confondent. Et quelqu'un de normal peut faire des choses atroces. Je me suis demandé pourquoi. J'ai voulu comprendre. C'est pour observer ce qui se passait que je n'ai pas dénoncé Basini. Je voulais voir comment un homme peut se laisser humilier. Je voulais me rendre compte, voir de près ce qu'il ressent et ce que peut ressentir celui qui l'humilie. Je croyais très naïvement que le monde s'arrêterait. Aujourd'hui, je sais que rien ne l'arrête. Aucune atrocité ne l'arrêtera. Vu de loin, cela paraît impossible. Et une fois qu'on y est, cela arrive simplement comme ça.
Phrase de précurseur, si vous commencez à donner de l'avoine, de la haine à manger à l'homme, il continue.
C'est le roman de l'indétermination morale et de l'ambiguïté. Le roman, cela vaut pour les désarrois, mais cela vaut aussi pour tous les écrits ultérieurs de Musil. Le roman, chez Musil, est un dispositif de laboratoire, avec comme cobaye des personnages, ce que Milan Kundera, quant à lui, a pu appeler des égaux expérimentaux.
Mais là, la question de Turles qu'il expose devant le conseil de discipline, c'est une question qui restera une question. Ça, c'est une constante dans tous les textes de Musil.
Oui.
Les questions restent les questions.
Oui, parce que l'œuvre littéraire telle que l'envisage Musil a pour objet d'explorer les enjeux intellectuels et moraux, toujours. Et évidemment la question du mal. Mais il est intéressant de noter que lorsque Musil écrit les désarrois de l'élève Turles, très jeune, hein, il a 25 ans, son propos n'est pas politique. Il n'a pas de visée de critique sociale, par exemple. Ce n'est que plus tard, dans les années 30, avec le recul, qu'il percevra la dimension politique de son écrit, dimension politique qui a été fortement soulignée par Volker Schlöndorff dans son film.
Vous avez bien fait de citer le réalisateur du film, ce que j'avais oublié de faire. Il écrit ce livre à Berlin, parce que voilà le peintre de la Cacanie, beaucoup plus attiré par Berlin, parce que c'est Berlin qui donne le branle. Toute sa vie d'ailleurs, il cherchera à être davantage à Berlin qu'à Vienne. Chaque fois qu'il devra revenir à Vienne, ce sera un échec.
C'est ça. Musil ne croit pas beaucoup à l'idée d'une culture autrichienne ou d'une culture austro-hongroise. Et ça, j'ai essayé de le souligner dans le livre. C'est vrai qu'il y a une illusion rétrospective laissant penser que Vienne a été vraiment le théâtre d'une sorte d'extraordinaire ébullition intellectuelle et artistique. C'est à la fois vrai et faux. Vrai parce qu'effectivement on trouve dans ce triangle que forment Prague, Vienne et Trieste un nombre assez impressionnant de très très grands artistes, mais faux parce que ces gens-là travaillaient pour la plupart dans une très très grande solitude.
Ils n'étaient plus grands, mais beaucoup travaillaient aussi dans la culture subventionnée.
Alors, plutôt pour les arts du spectacle, les arts vivants ou la musique, on peut citer bien évidemment la grande figure de Mahler. Mais je dirais les intellectuels comme mettons Wittgenstein, Freud, Musil, Canetti, étaient des gens qui travaillaient sinon dans l'isolement, du moins dans l'absence de considération.
Donc il y avait un écran qui était celui de la culture officielle, du grand théâtre, de l'opéra, où était perpétuée une certaine grandeur, la régénération dynamique pouvait venir d'ailleurs. On va pas dire du mal de Mahler, surtout que nous allons entendre maintenant un extrait de la tragique, la symphonie numéro 6, avec le philharmonique de Berlin, dirigé par Claudio Abbado, et ça va nous introduire au moment dramatique de la guerre et de la fin de l'Autriche-Hongrie.
Thank you.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
C'est alors que s'éteint François-Joseph. Après 68 ans d'un règne dont on pressentait peut-être qu'il dut finir, mais dont on espérait qu'il ramènerait la paix avant de s'achever. L'Empire s'enfonce dans la guerre et ses peuples se sentent irrémédiablement abandonnés, comme dans un cauchemar du demi-sommeil, où tout va de plus en plus mal en laissant deviner que le réveil sera pire.
Robert Musil est aujourd'hui notre sujet. On a entendu Frédéric Mitterrand, chacun l'aura reconnu. Robert Musil et l'Autriche, au moment de l'élection présidentielle, c'est le centenaire très précisément de l'enterrement de l'empereur François-Joseph. En 1916, notre auteur, Frédéric Joly, vous lui consacrez une biographie, au seuil, il est passé de lieutenant à capitaine, mais il est à l'hôpital. Bon, peut-être parce qu'il a été blessé, mais surtout parce qu'il est brisé intérieurement. Au début, il avait été pris du prurit nationaliste, et maintenant, cette Autriche, en laquelle il ne croyait qu'à demi, il la voit s'effondrer.
Oui, c'est là, cette sorte de fièvre patriotique, disons, qui s'empare de Musil, s'empare de lui pour la première et dernière fois. C'est là, car Musil n'a pas de, n'a aucune, il n'y a aucune dimension patriotique dans sa réflexion politique. Elle va s'emparer de lui à ce moment-là, mais très vite, le quotidien de la ligne de front va le ramener aux réalités et il ne sera que confirmé dans la perception qu'il avait du déclin très progressif de l'Empire.
Une phrase de lui qui sonne étrangement aujourd'hui, il faut tout réinventer, il faut tout réinventer. Tout réinventer, c'est le sous-titre de votre livre,
oui, tout à fait.
Mais on s'y refuse.
Oui. Cet impératif de la réinvention, Il le sentira surtout au lendemain de la guerre, une fois l'Empire définitivement mort, dans la Vienne rouge, la Vienne post-impériale, parce qu'il est extrêmement frappé par l'atonie morale et politique du pays dans lequel il vit. D'ailleurs, ce qui le frappe énormément, c'est l'incapacité qu'ont ses contemporains de tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ces 5 années d'épouvante totale. Et c'est ce qui va le pousser à opérer, pour le citer, un saut cognitif et moral qui prendra la forme de ce grand roman qu'est L'Homme sans qualité.
Avant le grand roman, beaucoup d'essais de théâtre, Les Exaltés, qui n'ont été représentés que tardivement et d'une manière qui lui a déplu. Mais en voici un extrait, c'est le tout début, avec Sylvia Monfort, comme c'est une représentation pour France Culture en 69, peut-être là, vous agréera-t-elle.
Tout homme vient au monde avec des pouvoirs qui sont à la mesure des aventures les plus inouïes. Les lois ne le lient point. Puis la vie l'oblige à perpétuellement choisir entre deux possibilités. Et tout ce qu'il lui reste à faire, c'est se répéter qu'il y en a une qui manque, qu'il manque l'inconnu, la troisième possibilité. Ainsi fait-on tout ce que l'on veut et n'a-t-on jamais fait ce que l'on avait voulu. Finalement, on s'abrutit.
Mais c'est toujours la même question, qui est déjà dans les désarrois de l'élève Torlet, c'est qui sera dans L'Homme sans qualité, répétition de la question qui demeure une question. C'est quoi L'Homme sans qualité?
La troisième possibilité qu'évoque ce personnage des Exaltés, et Sylvia Monfort en l'occurrence, effectivement entre en résonance directe avec l'utopie musilienne. Je pense qu'il y a une véritable utopie, une véritable dimension utopique chez Musil, ce qui suppose effectivement d'évoquer la question de la qualité qui revêt là aussi dans cette œuvre plusieurs dimensions. La qualité, c'est un attribut qui tel un vêtement, va venir recouvrir le vide, mais la qualité est aussi synonyme d'assise, de cohérence interne. C'est elle qui vient donner au moi un point d'appui et garantir une certaine stabilité de ce moi. une certaine stabilité de l'identité personnelle. Et donc l'absence de qualité est à la fois une maladie et une chance. Une maladie parce que celui qui en est affligé est absolument dépourvu de centre de gravité, mais une chance parce que cela lui permet aussi de se confronter à ce vide et pourquoi pas de le dépasser.
Donc c'est l'homme contemporain, l'homme sans qualité.
C'est l'homme contemporain, c'est l'homme sans qualité, c'est une multitude de possibilités privées de centre, en quête d'une vie juste, en quête d'une troisième possibilité, comme le dit l'héroïne des Exaltés.
Donc un kaléidoscope sans centre de gravité.
Exactement. Ouais.
Et cette rédaction de l'homme sans qualité va l'entraîner dans une course de vitesse extraordinaire qu'on a le temps peut-être de repérer étape après étape. Lui, il veut vivre à Berlin.
Il va d'abord, l'écriture du roman, il la débute à Vienne, mais il va se rapprocher de Berlin parce que Musil connaîtra toute sa vie. Vous l'avez évoqué rapidement au début de l'émission, une très grande précarité financière qui va devenir au fil des années un véritable drame pour lui.
C'est quand même un choix. C'est l'homme qui veut être sans emploi astreignant.
Absolument. C'est un choix.
Sans emploi qui le rende dépendant.
C'est un choix, comme vous le dites, effectivement, qui est parfaitement assumé, mais qui, au quotidien, évidemment, est extrêmement difficile à supporter. Et il se rapproche. L'une des raisons de sa réinstallation à Berlin à la fin des années 20, au début des années 30, c'est le rapprochement avec l'éditeur, dans le but de, disons, de faciliter des relations qui étaient devenues très compliquées, notamment en raison des problèmes financiers.
Et alors, son livre commence à être publié en 1930, donc on est 2 ans avant l'accession au pouvoir de Hitler, et le deuxième volume paraît un mois ou deux avant l'accession de Hitler au pouvoir, une atmosphère irrespirable.
Voilà, c'est ça. Le premier volume rencontrera un grand succès critique, mais pas de succès véritablement public. C'est un livre déroutant à l'époque. Le deuxième tome paraît effectivement quelques semaines avant l'accession de Hitler au pouvoir, et bien évidemment, personne ne se soucie de littérature à ce moment, et le livre paraîtra dans l'indifférence la plus totale.
Il y a une notion que vous utilisez souvent, Frédéric Joly, que j'aimerais que vous expliquiez. Nous sommes à une époque de montée de l'atrocité. Mmh. La chronique de la cacanie crépusculaire qui est faite dans L'Homme sans qualité, c'est une analyse, dites-vous, de la perte du crédit moral qui affecte alors les formes civilisées de la vie.
C'est
crédit moral.
Cela vaut pour l'Empire austro-hongrois du début de siècle, comme pour l'Allemagne de la République de Weimar des années 30. Et ce qu'il y a de fascinant dans cette situation, c'est cette façon qu'a Musil, isolé dans Berlin, seul, de traiter de cette perte du crédit moral qui a affecté l'Empire et qui affecte dans le même temps, en ces années 30, l'Allemagne.
Et donc je me demandais s'il n'affectait pas aussi l'Europe de 2016.
Oui.
Mais c'est une parenthèse.
Une croyance majeure qui est garante de signification, en l'occurrence incarnée par la figure de l'autocrate bienveillant, vient à disparaître, et en dépit des efforts les plus louables, ne peut être remplacée. Et en fait, on assiste alors à une sorte de d'hémorragie du sens. Et l'homme sans qualité est en bonne partie l'histoire de cette hémorragie-là.
La rédaction, c'est une course de vitesse. En 1933, il va quitter l'Allemagne, même 34. Il va en 35 faire une incursion à Paris, mais à Paris, il parle devant le congrès des écrivains antifascistes, et là, échec là aussi, parce que...
Au palais de la Mutualité, parce que le Gide et Malraux, à ce moment-là, naturellement pour principale visée de mettre en garde l'opinion publique contre l'émergence des fascismes qui explose absolument partout.
Et lui, il veut parler de Staline.
Et pas exactement. Musil se soucie surtout de l'autonomie de l'écrivain et de l'artiste face à tous les pouvoirs politiques. Et il se méfie autant, effectivement, de Staline que de Hitler. Ce que les communistes parisiens, à ce moment-là, ne peuvent tolérer.
parce que la gauche est anti-fasciste mais n'est pas anti-totalitaire.
Absolument.
Et ne lui reste à lui, il faut imaginer la détresse de cet homme, que son désir de finir ce livre dont il s'aperçoit jour après jour qu'il ne sera jamais achevé. Il doit quitter l'Autriche en 1938.
Parce que son épouse est juive. Tous deux vont se réfugier en Suisse, où ils passeront les cinq dernières, où Musil va passer les cinq dernières années de son existence dans le dénuement, alors le plus radical, c'est-à-dire forcé à des démarches de mendicité, et malgré tout continuant d'explorer cette troisième possibilité si bellement évoquée par le personnage des Exaltés.
L'ineptie consiste à vouloir conclure. Je vois un passé en ruine et un avenir en germe. L'un est trop vieux, l'autre est trop jeune, tout est brouillé. Mais c'est ne pas comprendre le crépuscule. C'est ne vouloir que midi ou minuit. Que nous importe la mine qu'aura demain? Oui, la bêtise consiste à vouloir conclure. Nous sommes un fil et nous voulons savoir la trame. Cela revient à ces éternelles discussions sur la décadence de l'art. Maintenant, on passe son temps à se dire « nous sommes complètement finis, nous voilà arrivés au dernier terme, etc. etc. » Quel est l'esprit un peu fort qui est conclu? À commencer par Homère. Contentons-nous du tableau, c'est aussi bon.
Extrait d'un petit livre sur la bêtise qu'a publié Musil en même temps qu'il essayait d'achever L'homme sans qualité, mais la bêtise est virale.
Les bêtises occasionnelles des individus peuvent facilement entraîner une bêtise constitutive de la communauté. Il existe une imitation sociale des faiblesses mentales.
Merci à vous, Frédéric Joly. Votre livre sur Robert Musil, c'est aux éditions du Seuil.
C'est moi qui vous remercie.
Aux côtés de Valérie Astaraï. Jacques Sigal a fait une apparition fugace. Hélène Langlois à la technique. Franck Olivard à la traduction. Et Ilinka Negulesco à la préparation.